Allô, bonjour Daniel et tous les membres de ton émission, c'est Khedija à Toulouse. Je t'appelle parce que très rapidement, parce qu'avec la mort d'Arafat, il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Je suis tunisienne et je reconnais tout à fait ce qu'a dit ton invité d'hier. La seule chose, c'est qu'il y a une voix pour les démocrates musulmans, comme elle dit. Et ben, c'est nous cacher, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a 20% des musulmans qui font, il y a que 20% des musulmans qui font le Ramadan. Moi, je dirais qu'il y a que 20% des musulmans qui ne le font pas. La plupart des autres font leur prière, font leur Ramadan, fenêtres fermées, enfermées chez eux. Parce que on ne veut pas devenir islamiste, on ne veut pas être étiqueté comme tel, on veut rester intégré dans la société française, mais en même temps, on croit en quelque chose qu'on nous a inculqué. Et même si on ne nous l'a pas inculqué, on a le droit d'adhérer. Il y a des bons catholiques et il y a des bons musulmans, il y a des mauvais catholiques et des mauvais musulmans. Et rapidement sur la mort d'Arafat, écoute, j'ai beaucoup de peine, je viens de perdre mon père, j'ai l'impression de perdre une deuxième fois. Et surtout, il y a même pas 24 heures, on respecte même pas 24 heures de respect, enfin, on respecte pas sa mort. À chaque fois qu'on en parle, on dit d'abord que ça a été un terroriste. Mais tous les grands chefs israéliens ont tous aussi été des terroristes. Mais ils ont tout changé. Enfin bon, on traite pas Yasser Arafat, on traite pas les Arabes comme on traite les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Et heureusement que ton émission existe, parce que sinon, je pense que beaucoup d'entre nous se radicaliseraient.
Oui, salut Daniel, bonjour, c'est Dani. J'appelle d'un petit patelin de Martinique qui s'appelle le Mont Nevers. Si j'appelle aujourd'hui, c'est parce que c'est 11 novembre, je pense très très fort à mon grand-père qui a fait la guerre de 14-18. Et mon grand-père a fait partie de tous ces gens qui n'ont jamais été reconnus et qui sont partis dans l'anonymat. Et pourquoi j'appelle aujourd'hui tout particulièrement? Parce que j'ai rencontré beaucoup de déceptions, je dirais, par rapport à ces gens. J'ai vu comment ces anciens combattants étaient traités en Afrique, notamment lorsqu'ils venaient chercher à l'ambassade, ou plutôt au consulat de France de Niamey, par exemple, leur petite retraite. Comment ils étaient traités de manière très malpropre, je dirais. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon grand-père, qui est parti de manière très solitaire, sans aucune reconnaissance. Et étant donné qu'il m'a toujours raconté la guerre, et je me souviens, petit, nous rions beaucoup lorsqu'il nous racontait cela, parce qu'il avait une façon de le faire tellement comique que nous pensions qu'il avait eu du bon temps. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte, j'ai ouvert les yeux sur ses souffrances.
Merci pour ces messages, notamment pour cette première auditrice qui évoque, qui dit si cette émission n'existait pas, on serait poussé vers l'extrémisme. Merci. Elle faisait allusion à l'émission d'hier, évidemment, avec Siem Ben Cedrine, notre amie tunisienne. Et puis cette deuxième auditrice qui nous parle depuis la Martinique, eh ben c'est un peu notre sujet du jour. Pas la Martinique, mais les soldats venus de loin, les soldats coloniaux, et on va s'interroger aujourd'hui sur le rapport qui peut bien exister entre une rue, un bol de chocolat, une Côte d'Ivoire et un 11 novembre. Voilà, quel rapport peut-il exister entre ces choses, une rue, un bol de chocolat, une Côte d'Ivoire et un 11 novembre. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
C'est un message d'un auditeur, mercredi 10 novembre 2004, qui disait, je cite, Nicolas Sarkozy se bouge. Je citerai l'intervenant africain entendu sur France Inter la semaine dernière, qui disait, lui, en parlant de ce même Nicolas, ouvrez les guillemets, ce n'est pas le spermatozoïde le plus agité qui parviendra à féconder l'ovule. Salut, Daniel de La Rochelle.
Bonjour mon répondeur préféré, j'ai un avis à la population toulousaine à faire passer. Dans la série « Prenons le fric là où il est », Attaque Toulouse organise une réunion publique avec Jacques Cossard poursuivre la lutte pour les taxes mondiales le mardi 16 novembre à 20h30 à l'ENSET, c'est 2 rue Camichel, dans le quartier Saint-Aubin à Toulouse. Pour plus d'infos, attaque-toulouse.org. Et après donc cette belle conférence, on se boit un coup tous ensemble, on tchatche, voilà. Bisous, baveux à Daniel, à toute son équipe, et continuez à nous faire du bien. C'était Michel de Toulouse. Ciao, à bientôt.
Have you seen any American soldiers? Avez-vous vu des soldats américains? Where are our headquarters? Où est notre quartier général? I want to find my regiment. Je veux rejoindre mon régiment. Have you seen the enemy? Avez-vous vu l'ennemi? I am short of cartridges. Il me faut des cartouches. Can you give me any information about the enemy? Pouvez-vous me donner des renseignements sur l'ennemi? We are going to attack. Nous allons attaquer. Look out, a shell. Attention, un obus.
Si on a appelé au camouflage des gens de l'infanterie, c'est pour les charger de missions et travaux dans la zone.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, le général Mangin.
Flight number 2, arriving from New York.
Quel rapport entre une rue, un bol de chocolat, une Côte d'Ivoire et un 11 novembre? Eh bien, la réponse, c'est un général. C'est le général Mangin, Charles Mangin. La rue, eh bien, la rue, c'est ici, c'est la nouvelle adresse de France Inter, 7 avenue du général Mangin à Paris, dans le 16e arrondissement. Voilà pour la rue. Le bol de chocolat, eh bien, c'est du Banania. C'est le Yabon de Banania, avec la figure joviale du bon nègre en chéchia, le tirailleur sénégalais. Et l'on va voir que le général Mangin, surnommé aussi le boucher de Verdun, fut aussi, selon certains, le boucher des Noirs. Et il fut à l'origine du fameux Yabon Banania. En effet, la France doit au général Mangin l'invention du concept de force noire, c'est-à-dire l'utilisation des Africains d'Afrique noire comme chair à canon dans les fameux régiments de tirailleurs africains, de tirailleurs sénégalais. 30 000 de ces tirailleurs sénégalais sont morts durant la Grande Guerre, dont on célèbre aujourd'hui la mémoire, 80e anniversaire de l'ouverture de la boucherie la plus cruelle et la plus imbécile de tous les temps. 30 000, ça fait plus de 2000 tonnes de chair à canon. Combien de tonnes au total? Combien de tonnes de chair d'hommes morts? Ouais, ça peut se compter en poids, même s'il y en avait guère. Et la Côte d'Ivoire dans tout ça? Eh bien, aujourd'hui, les voix de ces blancs, ces expatriés, entendus, apeurés, pourchassés, disent-ils, fuyant la Côte d'Ivoire, n'y a-t-il pas là un lien, un fil même ténu entre le sort de ces tirailleurs africains massacrés, méprisés, humiliés, et ces révoltes anti-blancs, anti-France? Comment ne pas faire un rapprochement? Évoquer la figure du général Mangin, c'est évoquer les troupes coloniales dans la guerre de 1914, c'est évoquer la colonisation, évidemment, c'est mesurer aussi un basculement de mentalité. On va essayer avec un historien, Nicolas Bancel, maître de conférence à Paris 11, et puis Éric Dereux, qui est réalisateur de films documentaires, qui est chercheur associé au CNRS, collectionneur de tout ce qui concerne ces tirailleurs coloniaux, tirailleurs africains. On va essayer de... Évidemment qu'il est facile aujourd'hui de décrier et de s'insurger contre les horreurs de cette époque, mais on va essayer de se replacer dans la mentalité du temps. C'est très difficile, évidemment. Mais quand même, pour essayer de mesurer ce basculement extraordinaire qui a pu se produire en l'espace d'un siècle, un peu plus d'un siècle, entre l'acceptation totale qu'il y avait du colonialisme et aussi de la guerre, et aussi de la place que ces Africains, ces coloniaux pouvaient avoir dans l'univers, dans le monde, et dans cette guerre. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, et c'est le général Mangin qui vous salue.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas non fichtre nom. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Les troupes noires ne nous donneront pas seulement le nombre, elles sont composées de soldats de métier, habitués à toutes les privations et à tous les dangers, tels qu'aucune puissance n'en possède en Europe. Elles ont précisément les qualités que réclament les longues luttes de la guerre moderne, la rusticité, l'endurance, l'absence de nervosité et une incomparable puissance de choc. Ces lignes ont été écrites en 1910 par un certain colonel Mangin, il n'était pas encore général, et ces lignes figuraient dans un ouvrage qui fit grand bruit à l'époque, qui était intitulé « La force noire ». Et cette force noire, vous avez compris qu'il s'agit des Africains d'Afrique noire qui, dans l'esprit du colonel Mangin, devaient remplacer ou compléter nos forces militaires françaises face à un ennemi qui allait être, on ne savait pas encore bien à l'époque si ce serait l'anglais ou l'allemand, mais en tous les cas on savait bien qu'on allait avoir un ennemi très important et qu'il fallait se préparer. Alors, eh bien, on avait l'idée d'aller recruter dans nos belles colonies, dans notre empire. La France, faut-il le rappeler, avait un empire rose, vous vous souvenez, peut-être, vous avez peut-être vu sur les cartes d'avant la colonisation, à quoi ressemblait notre beau pays, si grand, si vaste et si extrême. Alors, cette l'air de rien, cette phrase et cette idée qui a mené effectivement à une image qui nous est très très familière, qui est celle du noir, de l'Africain représenté par sur les boîtes de banania, toujours aujourd'hui, eh ben ça a été un enjeu très important dans les discussions, dans l'histoire, et puis aussi, ça a été surtout une histoire très importante pour ceux qui étaient concernés, c'est-à-dire ces coloniaux. Il n'y eut pas que des Africains d'Afrique noire, il y a eu des Maghrébins, des Malgaches, des gens d'Extrême-Orient, du Tonkin, de l'Indochine, aussi d'autres vieilles colonies, comme on dit, de Guyane ou des Antilles, comme la dame l'évoquait tout à l'heure, aussi bien que de Polynésie, que de Nouvelle-Calédonie. Au total, je crois, plus de 600 000 de ces hommes sont venus se battre entre 1914 et 1918. Alors, on a avec nous Nicolas Bancel, qui est historien, et Éric Dereau, qui est spécialiste, collectionneur et réalisateur de films documentaires sur cette période, qui vont nous dire un peu d'abord qui était le général Mangin.
La France honore l'histoire des peuples qu'elle protège.
Il est en fait connu parce qu'il participe à la mission Marchand. Il est le second de la mission Marchand. Et vous savez que cette mission, je la resitue un tout petit peu. C'est 1898, si mes souvenirs ne me trahissent pas. Et c'est une mission d'exploration qui est aux limites de l'Égypte et qui va rencontrer en fait qui va se heurter aux forces britanniques. Au général Kitchener, si je me souviens bien.
Pardon Nicolas, je rebondis, c'est une expédition. À l'époque, l'Afrique obsède les explorateurs, qui sont déjà en partie des conquérants, avec ce qu'on appelle le blanc des cartes. Il faut à tout prix remplir le blanc des cartes. Le blanc des cartes, ça veut aussi dire contrôler des fleuves, contrôler des sources de fleuves, et marquer des territoires. Et ce qui obsède à l'époque déjà les Anglais, qui eux l'ont largement exploré, ce sont les sources du Nil. Et Marchand, le capitaine Marchand, décide une expédition invraisemblable qui part de Luango, qui part du Congo, que les Français occupent, du fleuve, des rives, sur l'océan Atlantique, et va traverser tout le continent africain, d'ouest en est, jusqu'au Nil. Et là, sur le Nil, il arrive sur le Haut Nil, qui n'appartient réellement à personne, il arrive à Fashoda et il plante le drapeau français. Et à ce moment, les Anglais disent, mais pas du tout, le Haut-Nil a déjà été reconnu par nous, c'est à nous. Il y a une période de tension extrêmement vive, et la diplomatie française va finalement s'écraser, on dirait aujourd'hui, et Marchand être obligé, alors qu'il était prêt à se battre, à continuer et à finir en Éthiopie. Et cette expédition Marchand va avoir une extraordinaire retombée dans la presse populaire française, parce qu'on est toujours très anglophobe. Et évidemment, ça devient le héros. Et Marchand devient un héros extrêmement populaire. Il est en vignette sur toutes les boîtes de poudre pour enfants. Il fait la première page des journaux. C'est un personnage qui emblématise un peu cette France qui cherche à... Faut pas oublier le contexte de l'époque. La France cherche à revenir, à balayer la honte de 70. On prépare déjà la revanche avec l'Allemagne. C'est la grande époque de la colonisation triomphante. Et là, vraiment, Marchand, il représente cette France qui cherche à reprendre sa place à travers le fait colonial.
Et Mangin est là.
Alors, ce qui est intéressant avec la mission Marchand, si vous m'autorisez, c'est que y a une poignée d'Européens, ils sont à peine une dizaine ou une quinzaine, il y a des centaines de tirailleurs africains. Et ce qu'on va retenir comme leçon de la mission Marchand, c'est que tout ça a été possible grâce à ces tirailleurs. D'ailleurs, en 1899, ils défilent, pour le 14 juillet 1899, ils défilent derrière Marchand à Longchamp. Et c'est petit à petit comme ça que dans l'iconographie patriotique, dans l'iconographie populaire, commence à surgir la figure du tirailleur. Et je crois que c'est comme ça que Marchand, mais surtout Mangin, vont commencer à réfléchir à l'utilisation, la pratique de ces bras noirs.
C'est sur y a 50, leurs yeux sont comme des miroirs. Comme mourant, leur bouche plaisante, les turcos sont des français noirs. Alors, sans tambour ni trompette, on y vont dire nos tirailleurs. À 10 minutes, place honnête, il n'existait plus d'artilleur. Quand il s'effère de se battre, les six canons s'est trouvé pris, les bras de Turcos sous meurtris, les Turcos n'étaient plus que quatre. La chose est certaine, les Turcos deviennent méchants. Ça n'empêche pas les sentiments, les Turcos ne vont
Le fait sans doute le plus important ou l'un des plus importants de la Première Guerre mondiale a été le recrutement et l'utilisation de troupes indigènes. Depuis 1910, le lieutenant-colonel, j'ai dit colonel, c'était lieutenant-colonel Mangin, a tenté de populariser l'idée d'une force noire, c'est le titre de son ouvrage, de son livre le plus connu. Il a popularisé l'idée de recruter en Afrique noire des hommes et pour constituer des troupes également en Afrique du Nord. Je disais tout à l'heure que le chiffre total de ces troupes indigènes, de cette contribution coloniale, était de 600 000, c'est un peu plus, c'est 610 000 hommes venus de partout, plus 240 000 qui ont été recrutés pour travailler dans les usines françaises, souvent les usines d'armement, et on a déploré 81 000 tués et disparus parmi ces troupes coloniales. Et sur ces 81 000 tués et disparus, il y eut entre 35 000 et 40 000, selon les sources, tirailleurs africains qui furent tués ou disparus pendant ce qu'on ose encore appeler la Grande Guerre. On est avec Éric Dereau et Nicolas Bancel sur ce thème des tirailleurs sénégalais.
Je crois qu'on arrive justement à une question intéressante. J'ai un peu l'esprit de l'escalier, je rebondis sur ce que dit Eric. Une question intéressante, c'est effectivement l'utilisation des tirailleurs sénégalais. Comme j'ai dit, on a une période de commémoration où on célèbre à juste titre la participation des tirailleurs sénégalais dans la première et la seconde guerre mondiale. Mais il faut pas oublier quand même que ce corps est un corps spécifique qui a servi aussi à conquérir des zones coloniales en Afrique. Ce sont donc des gens qui ont été instrumentés en quelque sorte par l'armée française pour la conquête de leur propre pays. Donc je crois que ça soulève un certain nombre de questions qui me semblent intéressantes.
Comment se passe le recrutement ? Est-ce que ça se passe bien ? Les gars viennent avec plaisir ou résistent ?
Mais il y a plusieurs types de recrutement. Il y a un recrutement, vous savez que l'iconographie coloniale, l'image coloniale, a beaucoup insisté sur un seul type de recrutement, c'est celui de la libération des esclaves qui étaient victimes de la traite transsaharienne. Et donc là, on a en quelque sorte la préfiguration de la mission civilisatrice de la France, un thème qui sera appris énormément dans la propagande coloniale. On libère les esclaves et on les incorpore aux tirailleurs sénégalais. Alors, ce type de recrutement a effectivement existé, c'est incontestable. Mais on en a d'autres.
Et les tirailleurs sénégalais sont utilisés pour la pacification, c'est-à-dire la conquête de leur propre pays, c'est ça ?
Comme l'a dit Eric, au départ, effectivement, ce sont des missions de protection. On n'est pas encore au moment de leur création, on n'est pas dans une période d'expansion militaire à proprement parler. On est dans une période où il faut protéger le commerce, les comptoirs, et on commence à faire de grandes explorations, des missions d'exploration à l'intérieur des terres, dans lesquelles des colonnes de tirailleurs sénégalais vont
en quelque sorte sécuriser les convois qui sont soit des convois d'exploration militaire à destination de création de cartes, de zones d'influence dans la perspective éventuelle d'une colonisation, soit même des missions scientifiques. On est aussi dans la découverte, je dirais, du continent du point de vue humain. Il y a des missions ethnologiques, enfin qu'on appelle pas ethnologiques à l'époque, mais d'exploration dans lesquelles ils vont servir évidemment à la sécurisation.
Jusqu'à la fin du 19e, les tirailleurs sont donc levés, comme l'a dit Nicolas, sur ce vieux fond d'esclaves libérés.
Mais pas seulement.
Aussi, on joue évidemment comme quand la colonisation va vraiment se sédentariser à partir de 1870, 1880, on va aussi jouer les antagonismes présupposés d'une population sur une autre. Donc, on va recruter dans une région des supplétifs de façon à aller casser la gueule de la région suivante parce qu'ils sont réputés se haïr depuis des temps immémoriaux. Et puis, on va donner des récompenses aux tirailleurs. C'est très important parce que avant que ce soit une troupe qui soit réellement réglementée, elle le sera avec Federbe en 1857, mais ça va mettre très longtemps à se mettre en place. On va évidemment, il faut leur accorder en échange, eh bien, un droit de suite, le fait de pouvoir s'emparer des biens et des femmes. Très souvent, quand on lit les récits des Occidentaux, des Européens qui commandent ces colonnes, un des premiers butins que prennent les tirailleurs sont les femmes, parce qu'il ne faut pas oublier, et d'ailleurs on le retrouvera dans le discours de Mangin plus tard, que ce qui coûte très cher, c'est de se marier, c'est le prix à payer pour une dot. Donc un tirailleur à qui on va laisser s'emparer de plusieurs femmes ou de troupeaux, ça devient évidemment une affaire extrêmement intéressante. Et c'est comme ça que la plupart des colonnes de conquête sont rétribuées.
Les grands chefs blancs se penchèrent au chevet des misérables et s'informèrent de leurs besoins.
Moi, ce qui me semble très intéressant du point de vue socio-historique dans la formation des tirailleurs sénégalais, c'est que pour la première fois, on a un groupe social, appelons-le comme ça, qui va être un groupe social intermédiaire, finalement situé à l'interface entre les autorités coloniales et puis les sociétés colonisées d'où ils proviennent. Les recrutements, pour bien expliquer, les recrutements sont divers. Hein. Ce sont des recrutements qui se font par libération d'esclavage. C'est, comme l'a dit Eric, par opposition d'une ethnie à une autre. C'est aussi souvent des recrutements qui se font avec des gens qui sont plus ou moins les proscrits des villages. Donc, des gens qui trouvent un moyen, à un moment donné, aussi, d'accéder à un niveau supérieur sur le plan de l'échelle sociale. On voit, en fait, dans l'expérimentation, la formation de ce groupe, ce qui, pour moi, constitue les prémices de la doctrine d'assimilation. C'est-à-dire qu'avant d'être réellement formulé par les républicains en 1880, ça se joue, en fait, dans le corps des tirailleurs sénégalais. Des gens qui vont ne pas être vraiment dans la société coloniale, parce que on les accepte en tant que militaires, mais enfin il y a tout un tas de signes qui va les distinguer au sein de l'armée et de manière volontaire, de manière à leur garder un statut qui est quand même un statut d'infériorité, et en même temps ils sont plus dans la société africaine non plus. Donc ils accèdent à une modernité, effectivement ils vont accéder notamment à l'économie monétaire, ce qui est quand même un pas énorme. Ils ont une solde, même si elle est modeste, et ils vont être instrumentés, on le voit bien, c'est dès le départ, ils sont instrumentés dans les conquêtes territoriales en Afrique noire, dans la conquête du Maroc et de la Tunisie, et puis plus tard, dans les guerres coloniales.
On est en train d'évoquer une époque, l'époque coloniale, et tout ce que vous dites là est choquant pour nous aujourd'hui, qui avons dépassé l'époque coloniale. Hein? On est en train de raconter un pays, un empire, la France, qui va prélever des forces humaines pour en faire de la chair à canon. Notre lecture actuelle, est-ce qu'à l'époque on trouvait cet esprit anticolonial qui nous a gagné à peu près tous aujourd'hui?
Non, il ne faut pas non plus oublier qu'à l'époque, on n'a évidemment pas conscience de ça, on a même conscience d'autre chose. Quand on lit les textes dans la presse française avant 1914, on n'a absolument pas idée que ces hommes qui viennent au secours de la France vont nous créer des devoirs. Au contraire, c'est l'inverse. Il y a un texte du général Messimi, qui est ministre de la guerre et qui a été un colonial, qui dit « L'Afrique nous a coûté des flots d'or et de sang. Cet or et ce sang, l'Afrique doit nous le rendre au centuple. » C'est-à-dire que, en échange de ce qu'a apporté la colonisation française, la mission civilisatrice, mais non seulement en Afrique noire, au Maghreb, en Indochine, il faut bien, c'est important l'Indochine, hein, parce que c'est une des colonies qui est censée marcher, eh bien, en échange de ce que la mère patrie a amené, eh bien, ces enfants que nous avons sortis pratiquement des ténèbres, doivent évidemment payer leur écho. Et c'est comme ça qu'en 1914 jusqu'à 1918 est vu l'engagement, mais c'est à nouveau comme ça en 1939 et en 1945 qui est revu l'engagement de ces contingents. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression de faire venir de la chair à canon, on a au contraire l'impression que ces gens vont enfin rendre la monnaie de la pièce.
C'est quand même un basculement de mentalité.
Mais complètement.
Total.
Et quant au courant anticolonial, Nicolas, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, peut je crois aussi en témoigner, il est tout à fait mineur.
Le courant anticolonial, je dirais, anticolonial tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, donc qui est contre le système colonial lui-même, il est ultra minoritaire. Il est, bon, avant la Première Guerre mondiale, vous avez quelqu'un comme Félicien Chalaille, mais sinon vous avez notamment un petit groupe d'anarcho-syndicalistes qui édite un journal qui s'appelle L'Assiette au Beurre, qui est la seule publication en avis qui est anticolonial. Mais ils sont anticoloniales pourquoi ? Ils sont anticoloniales pour des raisons de politique intérieure. Ils sont contre les institutions dominantes, à savoir l'église, l'armée, l'école. Donc ils vont taper sur l'armée coloniale, comme ils taperaient en quelque sorte sur l'école. Donc c'est pas du tout, ça réfère pas du tout à une dignité des civilisations qu'on viendrait instrumenter, bafouer.
Oui, un universalisme humaniste, etc.
Voilà, tout à fait. Et je crois qu'il faut bien se replacer dans la fin du 19e siècle. C'est une autre société, c'est un autre monde qu'on a du mal à pénétrer parce que on vit dans une société aujourd'hui qui est démocratique et dont on ne mesure pas bien finalement le poids à la fois de l'européocentrisme qui ne se discute même pas. Je veux dire, à cette époque, à la dernière tiers du 19e siècle, il n'y a même pas une question qui peut se poser là-dessus. La civilisation occidentale, le progrès technique, c'est la civilisation qui doit dominer le monde. Et c'est comme ça. Et personne n'y trouve à redire.
On s'en souvient du discours de Jules Ferry, le fameux discours de Jules Ferry sur la supériorité blanche.
Voilà, mais maintenu le même 40 ans plus tard.
Et George Bush aujourd'hui en est persuadé aussi.
Une petite balade, car la valoche jouera là. Au pays où les peuplades dansent la bamboula. Les petites aigresses, devant le roi de l'allégresse, diront tout à coup sous où ces boutons battent la boue. C'est celui de la cabane de bambou qui jouait de la flûte en la cajou. À Nice où s'amusent les nababs, il a fait la nouvelle. Danser sur ce petit air qui jase, comme Joséphine Macaire s'engage, car la balle ce soir blanchit les idées noires, et avant, c'est le refrain des grillons. Les palmiers sous les dattes, c'est le carnaval négro. On peut voir ça vous épate, tout noir même Pierrot. Et les jouvents saines, habillés de peau naturelle, disent non vraiment, carnaval c'est du scompretto. Que les femmes portent de la peau de serpent et qu'elles dansent le tutu bonbon. C'est le jazz avec ses rythmes fous qui te ramène chez nous. Danser sur ce petit air qui jase comme Joséphine Macaire s'engage. Carnaval ce soir blanchit les idées noires. Y'a bon, c'est le refrain des grillons.
La force noire, c'était une idée du général Mangin, et c'est parce que France Inter maintenant est installée rue du général Mangin que nous évoquons, c'est bien la seule raison pour laquelle nous évoquons ce personnage qui s'est illustré pendant la guerre de 14-18 et notamment au chemin des dames avec le fameux et terrible général Nivelle. Au chemin des dames, il faut pas oublier qu'il y avait aussi de ces tirailleurs sénégalais qui sont morts au chemin des dames, qui font partie des 30 000 africains noirs morts durant cette guerre de 14. C'est eux que nous évoquons, et ce qui est extraordinaire, c'est de penser que si au cours du recrutement, comme on vient de l'évoquer, le recrutement, l'enrôlement a parfois été très, évidemment très brutal, il se trouvait aussi des Africains pour considérer que s'enrôler, venir se battre en métropole, eh ben c'était le moyen de l'émancipation. Et Blaise Diagne, qui était un député sénégalais, s'était fait le sergent recruteur de cette armée, de ces tirailleurs sénégalais, et il disait, en versant le même sang, nous gagnerons les mêmes droits. Nicolas Bancel.
Mais il y a aussi un deuxième phénomène, je crois, qui vient appuyer en quelque sorte ce sentiment de la supériorité. C'est aussi celui, il faut pas le cacher, celui de la supériorité raciale. C'est-à-dire, il y a une essentialisation quand même dans les races, dans la division des races, qui trouve une assise scientifique à la fin du 19e siècle, qui est incontestable aussi, alors, et qui va servir aussi, d'une certaine manière, à légitimer les conquêtes. Donc, on a une double supériorité. On a une supériorité culturelle, c'est notre civilisation, et on a une supériorité raciale, c'est notre race, et là, évidemment, c'est incontournable.
À tel point, Nicolas a raison, c'est que on pourrait aujourd'hui dire que le courant le plus anticolonial à la fin du 19e ou début 20e, ce serait aujourd'hui ce qu'on appellerait les forces de droite ou d'extrême droite. Et eux le font évidemment aussi selon cette échelle raciale, en disant on n'a rien à fiche dans ces colonies, on va dépenser de l'argent, alors que on doit à tout prix se réarmer, reprendre notre place dans l'Europe. Qu'est-ce qu'on va foutre en Afrique? On n'a rien à y faire. Oui, et ça, c'est la droite qui tient. Mora, c'est très anticolonial, par exemple.
L'idée coloniale, la conquête coloniale, c'est une conquête qui est une idée républicaine. On a écrit un bouquin avec Pascal Blanchard et Françoise Vergès qui s'appelle La République coloniale, parce qu'effectivement le fondement de la République moderne, c'est-à-dire le moment où les républicains opportunistes prennent le pouvoir en 1880 et vont impulser la grande poussée coloniale des années 1880-1890, ils le font sur une doctrine républicaine coloniale, c'est-à-dire effectivement on va apporter le progrès là-bas chez ces masses inférieures dans l'obscurité, et finalement on doit reproduire un modèle qui est celui quasiment de l'école républicaine et de la conquête de la métropole par les républicains au cours des années 1860-1890. On étend ce modèle à l'ensemble du monde, et la France, là, trouve son statut, c'est-à-dire la véritable mission, qui est une mission universelle, qu'on a gardée d'ailleurs, comme je dirais, dans notre culture politique, on a cette espèce d'arrogance aussi encore.
On a un grand peuple missionnaire. Voilà.
Et pour aller encore plus fort dans ce sens, l'armée, il ne faut pas oublier que l'armée de la Troisième République, les deux mamelles de la mère patrie, c'est l'armée, c'est l'école. Et l'armée, c'est aussi l'école de la République. Et donc les tirailleurs sénégalais, mais il y a aussi une force jaune. Il y a un général qui s'appelait Penquin, qui avait fait toute une théorie de la force jaune. C'est aussi l'armée est un puissant moyen de modernisation de la société et d'émancipation de ces tirailleurs. Donc c'est tout ça va avec.
C'est le jour de l'apothéose. Derrière leurs chefs à cheval, nos héros dans le matin rose marchent vers la côte triomphale. Éridant son front redoutable, voici Foch à l'œil si vilain. Pourquoi n'est-il pas connaissable, notre moderne Duguesclin? Près de lui, Joffre, en qui s'incarne le miracle du premier jour, alors qu'il dicta sur la Marne son légendaire demi-tour. Voici l'ex-généralissime, le vainqueur de Verdun, Pétain, complétant le trio sublime qui fixa France son destin. Près d'eux, un crêpe sur sa manche, voici le sauveur de Nancy, Castelnau, qui tient la revanche de ses deuils cornéliens. Voici ceux qui changèrent en déroute le dernier assaut du Kaiser. Maître, Aïeul, Humbert, De Goutte, Debney, Gérard, Hirschauer. Voici l'entraîneur énergique au profil de César Alfier, Mangin, le compagnon d'Afrique de Marchand et de Parapier. Mangin.
Mangin, chanté par Paul Déroulède, que Prévert haïssait, entre autres, ce chantre terrible qu'était Paul Déroulède. Alors, Mangin, le boucher des Noirs, ça c'est notre regard d'aujourd'hui, regard antiraciste, anticolonialiste, antimilitariste, mais Mangin, dans son temps, au contraire, a pu être vu comme un humaniste, l'humaniste qui veut permettre aux indigènes de s'émanciper en donnant leur sang pour la patrie. Après avoir longtemps occulté le rôle des troupes coloniales, on a eu tendance, ces dernières
dernières années, en revanche, comme un peu pour se rattraper, à faire de ces troupes les premières victimes de la grande boucherie. Eh bien non, les troupes coloniales furent, elles aussi, ces gens venus des colonies, furent victimes de cette boucherie, comme les autres, comme les piou-piou, comme les poilus, comme ce peuple français.
Je crois qu'il faut revenir sur le mythe du parce que là aussi c'est un mythe qui aujourd'hui obscurcit totalement la vision qu'on a de l'histoire des tirailleurs et qui en Éric particulier à l'heure où on commémore ça nous conduit à entendre des choses absolument invraisemblables, vouloir réattribuer des bons points finalement aux tirailleurs. L'idée du rideau de corps noir massé devant les mitrailleuses allemandes, c'est un mythe. Là aussi c'est un mythe de la propagande militaire d'ailleurs, parce que pour montrer que finalement ces soldats participent, mais évidemment comme Nicolas l'expliquait, on voyait pas ça du tout de la construction. Les mythologies et les cartes postales à l'époque n'étaient pas celles du regard qu'on porte aujourd'hui. C'est-à-dire que si à l'époque on pouvait montrer le tirailleur en avant avec son coupe-coupe, c'était pas du tout pour montrer combien on l'exploitait, c'était au contraire pour montrer la grandeur et la générosité dont on témoignait à son égard, de le faire participer comme le poilu, au même rang, contre la bête allemande. Donc c'est tout à fait l'inverse. Hey. Et tout ça a conduit, parce qu'il y a eu une propagande énorme, je vous disais, je collectionne les documents sur les tirailleurs de toutes origines. Pour une carte postale de tirailleur marocain, on trouve une ou deux cartes postales de tirailleurs indochinois, et on trouve 10 cartes postales de tirailleurs sénégalais. Ça a fasciné. Les tirailleurs sénégalais fascinaient les populations. Ça les fascinait. C'était sans doute la touche d'exotisme qui permettait de gommer vraiment les horreurs de la guerre. Puis la propagande atteignait un stade tellement stupide que là, tout d'un coup, à travers l'autre, les visions exotiques, on pouvait à bon compte à la fois grandir ces héros et puis parler de la guerre sans souci.
Quand nous avons pris nos positions, nous avons immédiatement contre-attaqué les troupes allemandes qui venaient au devant, qui croyaient avoir fait une victoire qui serait décisive. Nous avons contre-attaqué et nous avons réussi. C'est d'ailleurs à ce moment-là, le 9 juin 1918, que j'ai été blessé par un éclat d'obus à la tête qui a motivé par la suite ma trépanation. Je me souviens d'un fait vraiment qui a retenu toute mon attention, c'est que, blessé à la tête, je ne pouvais plus porter de masque, comme les autres. Nous étions bombardés par des obus à gaz. J'ai vu des camarades français blessés qui me passaient leur masque, parce que moi je n'avais pas de masque, qui me passaient leur masque pour le mettre, mais à chaque fois qu'on me le mettait sur la tête, je le tirais. Et je le jetais parce que je pouvais pas le supporter à cause du mal que j'avais à la tête. Quand je suis revenu à moi parce que j'étais évanoui, j'ai vu mon caporal qui était à côté de moi, qui était mort. Vraiment, ça m'a frappé.
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'apparaît l'image du Yabon Banania?
Ah oui, bien sûr.
C'est pendant la guerre de 14?
C'est pendant la guerre. Il y a eu un coup absolument génial. Il y avait un fabricant de chocolat en poudre et de cacao et de poudre de banane. Qui était un pharmacien ou un industriel qui était basé à Courbevoie, et à Courbevoie il y avait d'immenses casernements dans lesquels on cantonnait les tirailleurs, et il les a vus passer et puis il cherchait un slogan. Et à l'époque, faut pas oublier que le langage de diffusion au sein des tirailleurs, parce que alors, là aussi vous savez qu'on les appelle tirailleurs sénégalais, c'est une erreur. On les appelle tirailleurs sénégalais parce qu'ils ont été créés au Sénégal par Federbe en 1857, mais en réalité très vite le recrutement au Sénégal lui-même s'est tari. On est allé recruter une population réputée guerrière beaucoup plus loin, en particulier ce qui est aujourd'hui la Haute-Volta et le Mali, des populations Bambara ou Mossi ou Malinké ou Sara. Ces populations parlaient des langages totalement différents, et il fallait bien trouver un moyen terme. Alors on a inventé ce qu'on appelait le Moyadi, parce que la plupart des tirailleurs étant des Bambara, on s'était aperçu, il y avait un brillant linguiste colonial qui avait aperçu que le préfixe ya bon ou ya pas bon, ça correspondait à plus ou moins des choses qu'on retrouvait dans la sonorité du Bambara. Et donc on a créé des lexiques, hein, j'en ai plein, dans lequel on explique comment, à la fois il faut pas parler petit nègre, mais en même temps, donc en préambule, il y a toujours le petit nègre doit être proscrit, mais en même temps on explique que ça y a bon, ça y a pas bon.
Beaucoup y en a gagné croix la guerre, beaucoup y en a gagné médaille militaire, beaucoup y en a gagné légion d'honneur, tout bataillon sénégalais y en a bon, tout y en a battre beaucoup fort. Voilà, ça c'est des leçons pour apprendre aux militaires français à s'adresser aux Sénégalais.
Et puis aux Sénégalais entre eux aussi. aux Africains entre eux, puisque étant de recrutement extrêmement varié, il fallait aussi qu'il y ait un langage commun. Donc ça, c'est le langage commun de la République.
Série de leçons, je lisais des extraits de la 91e leçon, mais si je prends la 58e leçon, manière de porter un pli à un officier, alors, quand tirailleur, il y en a recevoir papier pour porter officier, il y en a arrivé dans son case, il y en a arrêté à six pas, il y en a salué lui, il y en a gardé papier main gauche, il y en a avancé côté lui, ensuite il y en a faire demi-tour, il y en a partir.
L'opération est terminée. Sur le langage petit nègre, c'est extrêmement intéressant de voir comment ça s'institutionnalise dans l'armée, Eric vient de le dire, et c'est très intéressant de le comparer à la situation linguistique concrète de l'Afrique de l'Ouest et des différentes ethnies qui sont agglomérées en fait au territoire sénégalais, puisqu'il y a des langues véhiculaires en Afrique de l'Ouest qui sont parlées par de très nombreux tirailleurs. C'est souvent fasciné d'ailleurs quand on va en Afrique de voir la capacité, le polyglottisme. Des Africains parlent 4-5 langues, mais pour eux, dans une société de l'oralité, c'est totalement normal. Donc, un grand nombre de tirailleurs apprennent un français très, très châtié en quelques années, mais continuent à avoir ce langage de communication à l'intérieur de l'armée, parce que je crois que c'est devenu aussi un instrument, c'est devenu un marqueur institutionnel aussi. C'est devenu un marqueur institutionnel qui distingue les tirailleurs sénégalais des autres corps de l'armée. On le voit très bien dans la propagande coloniale, c'est vrai, à partir de 1915, l'apparition du tirailleur Yabon et ce langage du petit nègre qui va se répandre dans les représentations des tirailleurs sénégalais, mais aussi des Africains, ça va servir de marqueur culturel, en fait, et de distinction à notre avantage par rapport aux populations africaines.
À partir de quand, pour revenir au travail de Nicolas Bancel sur l'anticolonialisme, à partir de quand est-ce qu'on considère que cette image du Yabon est raciste? C'est très récent, c'est il y a 20 ans, 30 ans, non?
On la considère pas encore comme raciste. Je vous rappelle que Banania... Donc c'est pas du tout quelque chose qui est diabolisé. Ça, elle a été à un moment, je pense, dans les années 70, un moment où l'anticolonialisme s'est confondu avec le tiers-mondisme, et il y a eu une prise de conscience antiraciste, mais je dirais une prise de conscience finalement très superficielle, qui s'est armée comme ça de symboles sans penser leur signification historique, et aujourd'hui ça a complètement disparu. Donc moi ce qui me marque aujourd'hui justement, c'est la capacité qu'on a à renouveler ce type de figure, non seulement dans une marque comme Banania, mais aussi, je sais pas, vous avez, je crois qu'il y a une entreprise qui s'appelle la Maison Coloniale, vous avez des bars coloniaux qui sont ouverts dans plusieurs villes en France, il y a toute une mode vestimentaire coloniale de baroudeurs qui dit telle quelle, je veux dire. Donc la colonisation, au contraire, elle retrouve une nouvelle vigueur, une nouvelle, je dirais, virginité, parce que sans doute, et ça c'est mon vieux credo, mais je le redis encore une fois ici, sans doute parce qu'on n'a pas fait encore, je crois, l'analyse complète de ce que la colonisation a produit sur notre culture, et entre autres, c'est effectivement ces figures racistes dont Yabon fait partie, bien sûr.
Comment finit Mangin?
Et il est mort de mort...
Il avait 9 enfants, j'ai lu ça quelque part.
Il avait 9 enfants, il est mort, je crois, en 1924 ou 1925.
Enfin, il meurt le 12 mai 1925, suite à un repas bien arrosé.
Voilà, absolument. Et donc, on a longtemps conclu un empoisonnement. Il y a eu toute une thèse qui a conclu au fait que...
Il aurait été empoisonné par l'extrême droite allemande.
Absolument. Bah oui, à cause de ses campagnes de la honte noire, parce que c'était le père des tirailleurs. Donc, il a payé, lui, doublement. En tout cas, s'il était empoisonné par l'extrême droite allemande, il a payé le prix de la force noire.
Alors, il était parti du boucher des Noirs et le voilà victime.
Absolument.
En tout cas, une heure après la fin de cette émission, Mangin, qu'on voyait comme un monstre, comme un salaud, comme le boucher des Noirs et le boucher de Verdun, est une innocente victime.
C'est un peu trop.
Ouais, c'est de trop. L'empire allemand.
Et vous êtes extrêmement fier d'être amené du général Mangin.
Ok, merci à tous les deux. Voilà, merci à tous les deux, Nicolas Bancel et Éric Dereau, à lire de Nicolas Bancel, La République coloniale, essai sur une utopie aux éditions Albin Michel, et puis un auteur qui a été évoqué, Félicien Chalaille, qui fut un anticolonialiste furieux, même si ensuite il a une vie qui s'est retournée complètement. C'est aux éditions Les Nuits Rouges, avec un article d'Éric Dereau sur les artilleurs sénégalais. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. réalisation Antoine Chao, musique Yann Chouquet, assistante Pascal Pascariello, le répondeur c'est Christophe Imbert, et le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de là-bas si j'y suis c'est daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve demain à 17h pour la base si j'y suis. Après une pause publicitaire, vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari. Salut !